Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Samuel et nous allons parler de la Récupératech. La Récupératech, c'est une association qui a été créée par l'École des Beaux-Arts de Lyon et qui vise à récupérer, collecter et puis ensuite redistribuer les matériaux et les réemployer. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Alors la Récupératech, qu'est-ce que c'est ?
Alors la Récupératech, c'est une association qui permet l'échange de matériaux de réemploi grâce à une monnaie locale, dont l'objectif, donc, bien sûr, est de faire face à l'épuisement des ressources et aux mutations sociales, économiques et écologiques qu'on connaît, parce que, bon, on va un peu droit dans le mur. On a défini une charte avec trois axes. Le premier, c'est de contribuer, de sensibiliser les étudiants au développement durable, en épargnant les ressources gâchées et en les réinjectant dans un nouveau cycle de production. Mais aussi, en sensibilisant le créateur quant à ce qu'il achète, et en communiquant sur la raréfaction des matériaux et au coût réel des ressources. Le deuxième, c'est de permettre à l'étudiant de réaliser un prototypage à un coût qui est vraiment très faible, ou quasiment inexistant en fait, à partir de ressources disponibles. Et en fait, c'est dans l'idée de contribuer à former un esprit de conception qui soit flexible et qui permette d'obtenir des formes qui soient beaucoup plus inattendues, avec... Voilà, c'est un vrai prétexte à innover, en fait, à partir des matériaux comme ça. Et le dernier axe, c'est celui, bien sûr, de la solidarité et des liens sociaux. Parce que la Récupératech, c'est un lieu d'échange de matériaux, mais c'est aussi un lieu de transmission des savoirs et des techniques. Et puis aussi cette dimension qui est celle que la Récupératech, elle organise un véritable décloisonnement au sein de l'institution, mais vis-à-vis aussi de nos partenaires extérieurs, que sont les entreprises et les institutions avec lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de rapports pendant notre formation. Voilà, c'est vraiment toute une logique et c'est un système qui est complet et qui prend en compte tous les petits aspects de la vie de l'étudiant dans l'école et de son travail, de son mode de travail. Donc ça peut être soit la transmission des connaissances, des techniques, mais aussi du coup l'apport en matériaux, donc le rapport à l'entreprise, le rapport entre étudiants.
Donc c'est un échange de biens et de services.
Voilà. Alors, cet échange, pour le rendre parfaitement efficace, on a conçu une monnaie. On a réfléchi à comment arriver à un système d'échange qui ne soit pas avec certaines personnes qui seraient très dévouées et qui seraient dévouées à une cause commune et qui s'épuiseraient, comme ça a été le cas parfois dans plusieurs initiatives qui ont été menées ici. Et du coup, on a pensé à la monnaie, donc avec toute l'inspiration qui peut arriver depuis ce qui se fait localement. Ou alors ce qui peut se faire un peu plus loin, à Bayonne, où on connaît toutes ces monnaies. Là, ici, c'est la gonette, il y a les systèmes d'échange de sel qu'on connaît bien, nous, à la Croix-Rousse. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas créer une monnaie complètement virtuelle qui soit en fait plutôt un prétexte à l'échange et qui permette de valoriser le travail de l'étudiant tel qu'il soit, mais aussi les matériaux, et de mettre sur la même... échelle, les biens matériaux et les services qui sont rendus. Donc ça nous permet d'employer les étudiants et de les faire travailler contre une rémunération en grain, cette monnaie qui s'appelle le grain. Mais ça permet aussi aux étudiants d'acheter les matériaux qui sont à la Récupératech avec cette même monnaie. Du coup, on a d'un côté les étudiants qui sont employés avec un salaire fixe, une espèce de SMIC grain, qui nous permet d'employer les étudiants à 10 grains de l'heure. Et ensuite, on a les membres du bureau qui ont des missions très précises au long de l'année, qui sont payés, eux, avec un salaire fixe qui est de 100 grains par mois et qui leur permet de valoriser. Mais par contre, évidemment, le salaire est le même pour tous. C'est-à-dire que notre organisation est complètement horizontale, il n'y a pas de rapport de pouvoir et du coup, il n'y a pas de quelqu'un qui serait plus payé qu'un autre.
Alors, les matériaux, ils viennent d'où ? Comment ils sont récupérés ?
Alors, il y a un premier rôle de l'association qui était celui de répondre à un surencombrement et le fait que les matériaux soient jetés systématiquement à la fin de chaque projet. Donc, un énorme gâchis au sein de l'école. Donc, ces matériaux, ils peuvent provenir de récupération, du coup, parmi les étudiants de l'école. Donc, soit l'étudiant a terminé son projet et vient spontanément à la Récupératech le déposer, soit on a des flâneurs qui sont, c'est un des rôles des membres de l'association, qui sont missionnés pour aller se promener dans les couloirs de l'école ou ailleurs, à l'intérieur de l'école, et déposer des avis de passage sur les matériaux qui traînent, parce qu'on a une espèce d'encombrement formidable des espaces, et donc c'était aussi une réponse à ça. Donc les matériaux, une fois que l'avis de passage est déposé, ils ont les étudiants ont un délai, et au bout de ce délai, les matériaux partent systématiquement ici à la Récupératech. Ensuite, on a un deuxième volet qui est celui du coup des partenariats avec les entreprises et les institutions extérieures à l'école. On a ce qu'on appelle le glaneur, qui lui est chargé de la relation aux entreprises, aux institutions, et qui va prospecter sur le territoire et créer des partenariats avec les entreprises. Donc, grâce à un principe de défiscalisation des dons matériels, on propose soit aux institutions de type, surtout les institutions artistiques, donc on a l'Institut d'art contemporain, le musée, les différents musées, que ce soit celui du musée gallo-romain ou alors le musée d'art contemporain, ou alors celui de Confluence, ou enfin s'il y a du coup un récupérage, donc une participation parfois au démontage. Ce qui se passe effectivement, c'est qu'on envoie les glaneurs sur place, ils repèrent les matériaux qui les intéressent, et ensuite ils organisent un convoi vers ces institutions ou ces entreprises, et ils embauchent en fait les étudiants de l'école, et qui sont eux-mêmes rémunérés en grains, et qui participent à ce convoi.
Donc il y a les flâneurs en interne,
et les glaneurs en externe.
Et tout ça donc arrive à la Récupératech des Beaux-Arts, là, dans la cave où nous sommes. Et ensuite, les étudiants viennent voir s'ils ont besoin de quelque chose.
Alors, il y en a deux principes, encore une fois. Le premier, c'est donc les matériaux qui sont présents et ce qu'on a décidé de ramener à la cave et qui nous semble intéressant pour les étudiants. Donc là, c'est une ressource qui est physique et parmi laquelle les étudiants peuvent sélectionner les matériaux qui les intéressent et les acheter. Et on a aussi un principe de flux tendu avec un catalogage des matériaux qui permet pour l'étudiant de savoir quels sont les matériaux disponibles dans les différentes entreprises et institutions. Plutôt les entreprises dans ce cas-là, parce que les entreprises, elles produisent des matériaux de manière régulière et relativement stable. Et on sait qu'on a des pôles ressources chez certains partenaires avec qui on a convenu qu'ils étaient prêts à nous les laisser. Donc si un étudiant par exemple a besoin d'un matériau spécifique dans une quantité relativement importante, en fait cet étudiant contacte le glaneur et organise avec lui le convoi vers cette entreprise et en profite du coup pour être payé, ce qui permet de récupérer le matériau gratuitement et voilà.
Et ensuite il y a les échanges de services, la transmission comme vous avez dit. Alors là, comment ça se passe?
Alors cette transmission, elle est pas vraiment formalisée, c'est simplement que les étudiants qui font une permanence entre midi et 2, en fait la Récupératech elle ouvre tous les midis entre midi et 14h. Et on a des permanenciers qui sont des membres du bureau qui sont aussi rémunérés mensuellement et qui eux ont la charge d'avoir une connaissance des matériaux qui leur permet de renseigner les étudiants sur leurs spécificités. Donc on a un échange qui est plutôt informel. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on fonctionne en binôme, donc on a un étudiant qui est plus âgé et qui a déjà une expérience de l'école et donc des matériaux, et un étudiant qui est plus jeune, donc qui vient des premières ou deuxième années, et qui du coup se forme en même temps et acquérit cette connaissance. Et ensuite, bien sûr, donc il y a cette transmission à l'intérieur des permanenciers, et ensuite via les personnes qui viennent acheter des matériaux, donc ces personnes-là sont capables de les renseigner. Voilà.
Et comment ça a commencé, cette histoire? Comment l'idée est venue et comment vous l'avez mise en pratique?
En fait, au commencement, on a des techniciens qui, de leur côté, faisaient des petites collectes de matériaux, avaient des petites collections comme ça, qui mettaient à disposition de manière un petit peu en fonction de la tête du client et en fonction de leur disposition, disponibilité. Et à côté de ça, on avait un énorme gâchis parce que l'école fonctionne avec une benne dans laquelle elle met l'intégralité de ses déchets. Du coup, on se retrouvait avec des étudiants qui fouillaient dans une benne avec parfois le passage de la pluie et dans une espèce de concurrence un peu sauvage comme ça. J'ai trouvé ça dans la benne, mais non, c'était à moi. Un truc complètement anarchique, et à côté de ça, le technicien qui pouvait mettre à disposition, comme ça, si t'avais la chance d'être en bon terme avec lui, donc ça veut dire avec quelques années d'expérience, souvent. Donc on s'est dit, il y a vraiment un problème. Et puis beaucoup de ressources, bien sûr, qui sont gâchées et qui sont pas récupérées par l'étudiant dans la benne, parce que, voilà, accumulation, ça veut dire stratification et inaccessibilité de certains matériaux, et voilà. Donc nous, un petit groupe d'étudiants sensibles à ces questions-là, des ressources et de ce que ça implique et de la cohésion sociale qu'on pensait pouvoir créer autour de ça, on s'est dit, bon, mais il faut qu'on fasse quelque chose. L'initiative du projet, c'était portée par un étudiant en design d'espace en quatrième année et une étudiante en art en quatrième année aussi. Et en fait, ils ont envoyé un simple mail et en fait, on s'est retrouvés embarqués là-dedans. On était une petite dizaine. Le train est parti, les idées ont volé très très vite en fait parce que on est des étudiants, c'est notre formation, ce à quoi on est habitué, c'est d'envoyer beaucoup d'idées très très vite et de fonctionner comme ça sur un projet. Nous c'est quelque chose qui est assez naturel. Du coup, on a concocté quelque chose, un dossier comme ça avec des idées, des plans, des dessins et des systèmes. On a trouvé ce jour-là le nom de la monnaie parce qu'on a, c'est vraiment la chose qui est arrivée en premier. Et donc on allait voir la direction avec notre petit projet et la direction elle s'est bien moquée de nous parce qu'elle en a vu des vertes et des pas mûres et que des étudiants qui sont capables de structurer quelque chose de cette nature en école d'art ils ont vu des choses qui ont été relativement éphémères avant nous dans une initiative qui ont duré 2-3 mois et qui se sont effritées. Et on a eu la chance d'avoir une équipe particulièrement persévérante et qui est aussi portée par des convictions qui étaient différentes de celles peut-être qui plus avec moins cette charge de conviction à l'intérieur. Et on n'a pas lâché l'affaire. Et mois après mois, on est continué dans une logique de presque de harcèlement. et finalement, on nous a donné un petit bout de cave de l'école, des souterrains de la cave qui sont normalement pas du tout accessibles et réglementairement, en fait, on n'a pas eu tout le droit de s'installer là-dedans. Donc, en dépit de tout ça, on nous a dit bon, essayez là-dedans, on verra bien et on verra bien si ça marche. Un peu, nous, on avait un peu l'impression qu'ils ont essayé de nous couler parce que c'est désespérant. On est arrivé dans un endroit extrêmement poussiéreux avec des toiles d'araignées partout. Un surencombrement parce que c'était un lieu qui était utilisé pour le stockage de l'école avec tout ce qui ne servait pas à ranger ailleurs, ils le mettaient là. On avait des archives de bibliothèque qui étaient des très vieux magazines qui étaient jusqu'au plafond. Et donc petit à petit, on a sorti les choses timidement. On a dit, bon, on va faire un petit peu de place. Donc on était sur quelque chose comme 15 mètres carrés. Et du coup, petit à petit, on a convaincu les différents responsables des entreposages dans l'école. C'est une administration un peu complexe ici. Et on leur a demandé si on pouvait dégager ça-ci, et puis ceci, et puis sortir, et puis petit à petit. Ensuite, on a repeint, on a nettoyé, on a aménagé, on a créé du mobilier. Petit à petit, on a gagné en oxygène et en possibilité. Pendant ce temps, le travail de structuration s'est fait. C'est un travail qui a été très long et qui s'est organisé en deux ans de réflexion. Un travail collaboratif donc avec tous les membres de l'équipe. Donc on était à l'époque une quinzaine quand on était sur notre ligne droite et avec ces membres on a travaillé donc de manière hebdomadaire. On s'est réunis et on a conçu en fait l'organigramme, la structure et on a conçu une organisation extrêmement précise des rôles, des fonctions de manière à ce que chacun ait une tâche très très précise à faire et que chacun puisse, quand il a envie de participer, puisse savoir exactement ce qu'il peut faire et à quel endroit on a besoin de lui et être valorisé à l'intérieur de ce système très facilement.
Et dans ce parcours, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté ? On en a déjà un peu parlé avec l'école au début.
Plusieurs difficultés. Bon, celle de la direction, évidemment, qui considère l'étudiant, qui lui prête très peu de sens à la fois civique, Oui, comme je le disais, c'est notre parcours, il est centré sur l'individu et ce qui dépasse de l'individu, en fait, effraie pas mal, en fait, la structure parce qu'elle n'a pas l'habitude de ça et qu'elle a l'habitude de former des artistes et des designers qui sont capables de s'intégrer sur un marché, qui sont capables de se construire eux et pas de former des collectifs. Il y a très peu de collectifs, en fait, qui travaillent à l'intérieur de l'école. Et ça, il y avait déjà une... C'est une nouveauté, vraiment, pour eux, d'après ce qu'on a compris. Donc, de la très peu de confiance de leur part. Et petit à petit, donc on a fait nos preuves et on est arrivé à instaurer ce rapport de confiance dans une fiabilité absolue et un échange constant, presque journalier avec la direction. Ensuite, on a eu un problème qui était d'ordre pédagogique. Celui-là, il a été très complexe et il est toujours pas démêlé. C'est-à-dire que les professeurs, considère aussi que ce qu'on a organisé ici dépasse notre rôle d'étudiant, qui est celui de créer, de produire et de rester dans un, comment dire, dans un processus de création et de formation. Mais ça rejoint en fait les inquiétudes de la direction. On ne comprenait pas qu'on puisse concevoir une structure ici et s'intéresser à des choses qui dépassent la formation. Et les professeurs nous ont pas du tout soutenus là-dedans. Ça a été toujours problématique. On a eu, en fait, c'est quelque chose qui a été très chronophage, du coup, qui empiétait forcément sur nos emplois du temps respectifs. L'école d'art se veut quelque chose d'extrêmement souple et très libre, mais en réalité, on s'est très vite rendu compte que ça rentrait en contradiction avec le plan pédagogique et du coup les grilles et les idées reçues, le besoin de aussi peut-être pour la pédagogie d'avoir un contrôle sur ce que fait l'étudiant. On a beaucoup, certains plus que d'autres. Souffert de ça, et c'est quelque chose qui était impossible à intégrer en fait dans les examens qui nous sont proposés, qui sont des temps d'échange avec les professeurs, qui prennent la forme d'accrochage. Je pense que ça dépassait la démarche de l'artiste, c'est-à-dire quelque chose qui n'avait pas de statut défini pour notre corps pédagogique. Il leur était impossible de voilà qu'est-ce qu'on fait vraiment, quel statut on donne à ça, parce qu'il y a une espèce d'obsession du statut de ce qu'on fait ici. Il faut vraiment être très clair là-dessus. Donc inqualifiable, donc indésirable.
Alors maintenant, ça fait 3 ans que la Récupératec existe. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme bilan?
On a rétabli. Moi, quand je suis rentré dans cette école, elle avait cette réputation d'être un grand monastère. Ce qu'on a tout de suite constaté, c'est que de par son architecture, en fait, l'école, elle divise les sections et les niveaux. Parce que dans cette école, il y a une section art, design d'espace, design textile et design graphique. Et ces étudiants étaient chacun dans leur salle. Il y a une communication entre intersection et entre les étudiants qui étaient très faibles. Donc forcément, chacun était dans sa pratique et dans ses objectifs d'artiste. Et la Récupératec, ça a été quelque chose d'assez formidable dans ce sens-là, qui a rétabli un lien social et d'entraide en fait entre toutes sections confondues, et qui a permis de l'émergence de projets intersection et de le renforcement de ce type de projet, et un lieu, encore une fois, pas défini, pas spécifique, et qui n'avait pas vraiment de statut, et du coup qui permettait un carrefour entre différents étudiants dans leur spécificité de formation. Et on s'est rencontrés en fait avec la Récupératec. Il y a eu on s'est découvert entre nous, et on a découvert une école voilà qui dépassait notre niveau, notre section, notre spécialité. Et moi, je trouve ça formidable, puisque la Récupératec, c'est un travail dans sa création, en fait, c'est quelque chose qui a mobilisé toutes les sections, design graphique, design d'espace, artiste, design textile. C'est quelque chose qui a mis tout le monde au travail ensemble, et qui a permis qui a montré qu'en fait ce genre de choses était non seulement possible, mais aussi extrêmement fertile, quoi. Le grand avantage de la Récupératec, ça a été de doper complètement la productivité des étudiants, parce que c'est la possibilité de faire pour les designers un prototypage à très faible coût, pour les artistes d'avoir accès à des matériaux très chers qu'ils n'ont pas du tout la possibilité de se procurer hors de ce cadre-là. Donc une espèce de générosité dans la production et dans l'hétérogénéité des matériaux, parce que en fait l'étudiant en art, il a un budget qui est assez serré, il a accès à certains types de matériaux très classiques en fait, certains bois, certains voilà, il y a une espèce d'habitude d'utiliser certains types de matériaux, et là on a accès tout d'un coup à un catalogue beaucoup plus vaste, et donc effectivement dans les pièces, et ça c'est quelque chose qui a été reconnu par la pédagogie. Voilà, tant par le volume que par la diversité des matériaux utilisés, ça a été vraiment une immense amélioration. Et bien sûr, économiquement, ça c'est très important. L'étudiant, il ne paye plus rien. Un étudiant, peu importe en fait son statut social, peu importe ses moyens, il a la même enseigne, et il a plus du tout d'inquiétude. Moi, par exemple, en tant qu'artiste et maintenant designer, J'ai acheté peut-être pour 100 € de matériaux depuis 4 ans que je suis dans l'école. C'est quelque chose qui est assez rien, en fait, parce que pour certains étudiants, c'est vraiment un budget mensuel. C'est quelque chose, voilà, on est autour de 50, 100 euros, ça dépend des étudiants par mois. C'est quelque chose voilà, qui est assez lourd à porter. Et voilà, donc la récupératech, ça a permis de donner un nouvel essor et de définir une nouvelle justice sociale, environnementale. Et, voilà. Maintenant, c'est quelque chose qui est... On est consulté régulièrement, on a la possibilité d'inviter des intervenants, on a la possibilité d'inviter des conférenciers, on a la possibilité... Enfin, on est l'association, on est même en fait le... Parce qu'il y a aussi cette dimension-là que j'ai oublié, c'est-à-dire qu'on a rétabli peut-être un rapport de confiance entre les étudiants et l'administration, la direction, qui n'était pas du tout acquis, et là, on a rétabli une sorte de dialogue, et finalement, l'étudiant, c'est plus celui dont on se méfie, mais c'est celui, du coup, en qui on peut avoir confiance, avec qui on peut co-construire des choses, et qu'on peut même consulter, et donc ça a eu une influence qui est pas, qu'on ne peut pas quantifier vraiment, et qui est, voilà, qui est très informelle, mais pour autant, moi je l'ai senti d'année en année, quoi, très, très clairement, à tous les niveaux.
Et donc vous étiez au début de la récupératech, ça fait maintenant 3 ans, qu'est-ce que vous pourriez avoir envie de transmettre comme message ?
Je ne vais pas faire le prophète, du coup, un peu... Non, c'est que il faut faire quoi. Après, c'est facile de dire ça dans notre école parce que nous sommes des gens qui faisons, c'est dans nos cordes. Mais c'est vraiment extraordinaire le on peut aller tellement loin. Enfin, après, on s'inscrit dans un contexte qui est particulier. Il y a une conscience maintenant qui est quasiment généralisée des enjeux climatiques. Donc peut-être que on a surfé là-dessus. Pour autant, en fait, la récupératech, à chaque fois à chaque rencontre qu'on a fait, qui est extérieure à l'école, ou qui, voilà, on a été accueillis vraiment à bras ouverts, et il y a vraiment une demande dans ce sens-là, autant de la part des étudiants, qui est de créer du lien social et d'entrer dans des logiques d'entraide. Il y a une très très forte demande, mais aussi du point de vue des entreprises, de nous rencontrer, ces jeunes générations, qui, avec leurs idées, de mettre à disposition leurs matériaux, parce qu'il y a vraiment, il y a une envie, enfin il y a beaucoup de bonne volonté. Nous on a été confrontés à beaucoup plus de bonne volonté que de mauvaise volonté, vraiment. Et ensuite on est formidable. Enfin les jeunes générations sont vraiment formidables. Et même moi j'ai l'impression de d'être confronté quand je parle et quand je travaille avec les nouveaux arrivants à la récupératech qui sont en première année, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui deviennent naturelles et qu'il y a des spontanéités que nous on n'avait pas ou qu'on s'interdisait ou qu'on censurait. Et moi, enfin, je vois bien que, enfin, je me rends bien compte qu'en fait, si on laisse ces gens faire et s'exprimer et créer et inventer, si on leur donne les moyens, en fait, il n'y a pas tellement d'inquiétude à avoir. Ça se fera, quoi. Les bonnes choses se feront. Voilà.
Et du coup, le modèle que vous avez mis en place, il marche tellement bien qu'il est en train de s'exporter.
Oui. Alors, il faut quand même savoir qu'il a été conçu pour s'exporter. C'est quelque chose qui a été formalisé comme une boîte à outils dès le début. On s'est dit, on ne peut pas faire ça rien que pour nous. Nous, on veut être un modèle parce que... On a une connaissance, en fait, un petit peu des écoles d'art et de ce qui se fait, et ce genre de dispositif, il n'est pas du tout présent. Et en fait, on se confronte aux mêmes enjeux un peu partout. La question des déchets, la question de la cohésion sociale et de l'hétérogénéité des profits et des moyens de chaque étudiant. Du coup, on s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, mais on ne va pas le faire et le laisser s'épuiser et le concevoir comme un souffle qui profiterait qu'à nous. Donc très vite, on a toutes les expériences qui ont été probantes et les dispositifs qui ont fonctionné, on les a consignés et on a créé en fait une boîte à outils en ligne qui permet à chaque étudiant ou alors à chaque école en école de création, de s'approprier ce fonctionnement, de s'approprier cette récupératech. C'est un terme qui a été déposé, du coup, et qui est protégé, qui est libre de droit, qui ne peut pas être commercialisé, et qui permet, du coup, à chaque étudiant de s'approprier donc ces schémas, mais de les décliner en fonction des spécificités de son école. Et là, il y a un mois, on a assisté à la première rencontre des récupératech et la formation de la Fédération des récupératech, qui est une association nationale. qui en fait soutient et permet d'organiser et de donner de la puissance et de la vitesse à la formation des récupératechs, d'accompagner les récupératechs qui se forment. Donc on a plusieurs typologies avec des récupératechs qui surgissent d'elles-mêmes en fait sans nous rencontrer du tout. Parce que dans un premier temps, c'est vrai que le référent, c'était Lyon. Et on a communiqué beaucoup sur nos expériences et même allé rencontrer ces récupératechs qui étaient en formation. Là, il y a la récupératech de Strasbourg qui s'appelle La Pioche, la des Beaux-Arts de Strasbourg, des Arts Décoratifs de Strasbourg plus précisément, la récupératech des Beaux-Arts de Toulouse, la récupératech des Beaux-Arts de Bruxelles, l'école de recherche graphique de Bruxelles qui s'appelle la Boîte à Gants. On a une récupératech qui est en formation à Saint-Étienne, une récupératech à l'école des Arts Décoratifs de Paris. Une récupératech en cours à l'école des Beaux-Arts de Paris, une récupératech en cours à l'école des Beaux-Arts de Rennes, une récupératech en ouverture à Québec. Du coup, en fait, la demande a été fulgurante en quelques années. Et nous, on organise un accompagnement comme on le peut, avec nos moyens et en fonction des distances. Parfois, elles sont beaucoup plus grandes que nous. C'est très impressionnant. Il y a des dispositifs qui sont énormes, en fait, avec des catalogues en ligne, avec des choses qui nous dépassent complètement. En fait, certaines récupératechs, en fait, pendant la réunion pour la fédération, du coup, on s'est rendu compte que la chose nous a complètement dépassé. Et que la boîte aussi qu'on a commencé, en fait, c'est simplement une sorte de, voilà, d'étincelle. Et là, on a un grand brasier et en ce moment, on cherche à travailler avec le ministère de la Culture et du Développement Durable pour essayer de rentrer aussi et de forcer les institutions à nous soutenir et que ce soit pas seulement sur nos petits bras, même s'ils sont pas si frêles que ça. Voilà. Donc le concept de récupératech a été récompensé à l'école. On a reçu un prix qui est le prix qu'on appelle des partenaires, qui a permis d'avoir un petit fonds pour démarrer du coup cette fédération et d'accompagner du coup de pouvoir intervenir dans les écoles gratuitement et de proposer des formations et des ateliers ou des conférences. On propose plusieurs types en fait d'interventions pour aider les étudiants et ensuite bien sûr à distance un accompagnement constant. Et ça, c'est la fédération des récupératechs qui s'en occupe, qui est constituée d'anciens ou de membres actuels des différentes récupératechs du territoire. Voilà.
Et je suppose qu'on va trouver tout ça sur Internet ?
Oui, alors le site de la Fédération, il est en construction, mais le site de la récupératech des Beaux-Arts de Lyon, bien sûr, elle est qui est cette boîte à outils, en fait. Elle est bien sûr disponible en ligne. Il suffit de taper la récupératech des Beaux-Arts de Lyon et on tombe très facilement dessus.
Eh bien, merci. Et puis, longue vie à la récupératech et puis toutes les récupératechs de France et à l'étranger.
Oui, voilà. Merci, merci.